Bonjour, bon lundi à toutes et à tous. Vous écoutez Dans les airs, magazine culturel de l'UQAM, diffusé en direct tous les lundis à 13h sur choc.ca. Joyeuse semaine de lecture à la communauté étudiante et bon lundi à tous les autres. Ici Olivia et aujourd'hui je suis en compagnie d'Antoine qui a été mordu par le virus de Dans les airs et n'a pas pu laisser l'occasion de nous rejoindre aujourd'hui en direct dans les studios de Choc. Merci de venir et co-animer pendant la semaine de lecture. On est aussi en compagnie de la réalisatrice Jenny Cartwright. Bonjour et merci d'être en studio aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre film « Je me souviens d'un temps où personne ne joguait dans ce quartier », film qui a été réalisé en 2021, qui sera présent à l'affiche au Rendez-vous Québec Cinéma cette semaine, demain, le 28 février à 15h au Cinémathèque québécoise. Donc, on propose une émission assez intéressante cette semaine. Les universités sont en relâche, mais l'offre culturelle à Montréal est toujours si abondante. Antoine, tu voulais nous parler des Rendez-vous Québec Cinéma dans le contexte du film de Jenny Cartwright dans le contexte des Rendez-vous Québec Cinéma. Nous avons quelques questions, bien sûr, à vous poser. Donc, je laisse Antoine au début.
Oui. Bonjour, merci d'être avec nous.
Allô.
Dans votre film, je me souviens d'un temps où personne ne joguait dans ce quartier, qui est un témoignage de la vie dans Parc Extension, l'embourgeoisement graduel, on va voir beaucoup de portraits très personnels de la vie des gens et des communautés dans le quartier, qui va jouer demain, le 28 mardi, au Rendez-vous Québec Cinéma.
Ouais.
Ce que j'ai perçu en regardant ce documentaire-là, c'est qu'il y avait un rapport très particulier avec le quartier. Je me demandais, c'était quoi ton rapport avec, justement, Parc Extension, cette partie-là de la ville? Est-ce que c'est un endroit que tu as beaucoup côtoyé, tu as beaucoup vécu? Tu nous parlais de ton rapport avec le quartier.
Oui, absolument. Ben, en fait, c'est mon quartier depuis... j'ai déménagé dans Parc Ex en 2011 et j'habite toujours dans le même appartement. Là, donc, ça fait 13 ans que j'habite dans... 12 ans que j'habite dans Parc Ex. Et j'allais beaucoup regarder se transformer. Là, quand j'ai déménagé dans Parc Ex, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un choix un peu étrange. Je me suis beaucoup fait répondre par mes amis. Ah ouais, ben on ira manger au restaurant indien parce que c'était vraiment pas le quartier trendy qu'il est maintenant. Puis, ben c'est ça, le film est né de toutes mes premières années à voir ce quartier-là changer, mais aussi à me poser des questions sur moi, mon rôle de gentrificatrice et...
Et l'image du jogging, c'est quand même puissant. Là. Moi, quand j'ai vu le titre, j'ai tout de suite eu une idée de ce que c'était. D'où ça vient, cette idée du jogging dans le quartier, justement?
On a trouvé ce titre-là pendant le premier confinement. J'étais avec le directeur photo, on prenait une marche dans le quartier. Puis souvent, on prenait une marche pour aller faire du repérage, aller voir ce qu'on allait filmer. Puis on a vu beaucoup, à partir du premier confinement, il y a eu énormément de joggeurs qui sont apparus. Puis c'était le moment où on comprenait pas trop comment la COVID se transmettait. Puis là, tout le monde disait « Ah, les droplets, les joggeurs, est-ce qu'ils nous donnent la COVID en courant ou je sais pas quoi ?» Fait qu'on les a probablement remarqués davantage à cause de ça, mais il y en avait vraiment énormément. Puis c'est quelque chose qu'on voyait pas quand je suis arrivée en 2011, il n'y en avait pas de joggeurs dans le quartier. Puis, tu sais, bien sûr, j'ai rien contre le jogging et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables d'aller courir. Sauf que, tu sais, le jogging, c'est quelque chose de particulier parce que c'est souvent fait dans des vêtements Lululemon à 300$, fait dans des sweatshops au Bangladesh. Ça, c'est notre affaire. Fait que, depuis leur arrivée, les joggers, ils ont toujours détonné du quartier. D'autant plus qu'il n'y avait pas autant de blancs que maintenant là, qui habitaient là avant.
Il y a quelque chose de bourgeois dans le jogging qui clash avec les habitants du quartier, mm-hmm. C'est ça?
Oui.
Qui est nouveau. Mais pourtant, l'image du jogging, c'est moi qui l'ai peut-être manqué. Je ne l'ai pas vu dans le film.
Il y en a trois.
Il y en a trois?
Oui.
OK. Il y en a trois, ils sont mis en avant-plan, ils sont rapides parce que j'ai l'impression qu'ils sont passés vite. J'étais tellement omnibilé par tout ce qui se passait autour, les tapisseries des riches culturelles. On voit plein d'ethnies différentes, mm-hmm. de cultures différentes. J'ai l'impression qu'ils sont passés
ben,
à travers comme ça.
Ils sont passés vite,
ça.
Peut-être. On n'a pas mis l'emphase. Parce que, tu sais, même s'il n'y avait pas de jogger dans le titre, dans le film, en fait, Oui. Je trouvais que le titre était... C'est David Chernak, le directeur photo, qui a trouvé ce titre-là à ce moment-là où je vous parlais. Mais tu sais, même si on les voit trois fois, mais même si on les voyait pas...
Le titre reste très ouais. puissant. Et très...
Parce que quand je suis arrivée dans Parquex, il n'y en avait pas des joggers, puis il n'y avait pas... Tu sais, moi, j'ai beaucoup dit à la blague que j'étudiais la gentrification à travers les étagères à l'épicerie. Mais tu sais, il y a un moment où la Häagen-Dazs est arrivée, il y a un moment où le kombucha est arrivé, le moment où le jogger est arrivé. C'est tout le même moment, dans le fond.
Ça vient ensemble, tout ouais. ça. On voit aussi la construction du pavillon de l'UDM. Il y a aussi beaucoup de... ça paraît quelquefois, les pancartes à vendre, vendues, tout ça, ça fait partie de l'embourgeoisement aussi. Est-ce que ça comment ça a évolué, ça, depuis que vous arrivez en 2011, là-bas, au niveau de la construction, justement?
Ouais. Dans Parquex, comparativement à d'autres quartiers de Montréal, la gentrification, elle a été vraiment brutale et fulgurante. C'est arrivé vraiment rapidement, puis ça s'est beaucoup concentré autour de la construction du campus de l'Université de Montréal, qui, soit dit en passant, n'était pas nécessaire. Ils avaient assez de place. Mais au Québec, on aime le béton et on aime les projets où on construit des choses, donc ils ont fait ça. Mais ce qui est particulier, c'est que ce projet-là n'a jamais pris en compte le quartier. Moi, je suis allée à beaucoup des journées porte ouverte, puis sur les maquettes, il n'y avait pas Parquex. Le quartier ne faisait pas partie de leur maquette, puis moi, souvent, je demandais innocemment, comme, « Ah, mais moi, j'habite Parc Extension, je ne vois pas vraiment ma rue, comment ça se fait? » Puis les gens nous répondaient, « Ah non, mais Parc Extension, il n'est pas sur le truc. » Donc, c'est vraiment une gentrification qui a été extrêmement rapide, concentrée autour de la construction de ça. En fait, c'est une forme de gentrification qu'on appelle, je ne sais pas s'il y a un mot en français, mais qu'on appelle la « studentification », qui est vraiment propre à ça, à la construction d'une école qui fait qu'il y a plein d'étudiants, d'étudiantes qui arrivent dans le quartier. Puis, je me rappelle pas des statistiques, mais je pense que c'était quelque chose comme en 2018, les loyers avaient augmenté de presque 9 ou 10 %. Il y a eu énormément d'évictions sauvages. Il y a eu beaucoup de constructions de condos. Il y a eu... Ça s'est un peu fait comme le Far West. Puis comme la population de Parquex, il y en a une bonne partie qui, souvent, c'est des immigrants, immigrantes ou des allophones. C'est des gens qui nécessairement connaissent pas leurs droits, qui n'ont pas peut-être tendance à aller au comité logement ou qui ne savent pas que le comité logement arrive. Donc, ça a été extrêmement rapide. Puis le visage du quartier a changé très, très rapidement. Puis c'est vraiment le tissu social qui s'est érodé. Là.
Oui. Et à travers ça... On explore cette notification-là à travers les gens qui y habitent, les communautés qui y habitent. Il y a beaucoup des tapisseries riches en culture. On voit beaucoup de lieux de culte.
Ouais.
Un truc qui m'a marqué, qui est écrit au début, mais qui n'est pas élaboré plus fort, plus loin que ça, la décision de ne pas mettre de sous-titres.
Ouais.
Donc, ça vient d'où, cette décision-là?
Ben, il y a deux choses. T'sais, admettons, je peux répondre pragmatiquement. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu. Okay. C'est un film qui a été fait avec un budget ridiculement bas, qui a été fait vraiment, c'est David Chernak et moi qui l'avons fait. On a tourné, enfin, on a eu de l'argent pour la post-production, mais tout le tournage a été fait vraiment juste avec lui, moi, une caméra. Fait que, admettons qu'on avait voulu, honnêtement, je vois pas comment on aurait pu s'y prendre parce que je me vois mal me promener avec 14 traducteurs, traductrices dans les rues puis demander aux gens quelle langue ils parlent. Mais au-delà de ça, de toute façon, ça a toujours été clair qu'il n'y en aurait pas parce que le titre est au jeu, c'est vraiment un film subjectif. Là. C'est ma représentation ou moi qui vis dans Parquex qui vois mon quartier changer. Puis une des choses que j'aime particulièrement de ce quartier-là, c'est toutes les langues qu'on entend puis le fait que je comprends pas. Puis je trouve ça très, très beau. Je trouve, tu sais, pour moi, c'est presque de la musique. Puis c'est mon expérience de tous les jours de marcher dans les rues puis d'entendre des langues que non seulement je comprends pas, mais que souvent je suis même pas capable d'identifier. Mmh. Donc, je voulais vraiment que ce soit cette expérience-là dans le film.
Je dirais que c'est réussi. C'est ça que j'ai ressenti à travers le film. Et justement, je me demande, avec cette distance-là de la langue, comment on fait pour s'approcher des gens, pour les filmer dans leurs ateliers, dans leurs lieux de culte, dans leurs rencontres famille, chez eux, au parc. C'est très personnel. Comment on approche les gens, surtout avec la COVID?
J'ai fait la majorité du tournage avant la COVID. Okay. J'ai commencé à tourner. En fait, on a tourné de 2016 à 2020 ou 2021. 2020, je pense. Donc, dans les dernières images, les gens ont des masques, là, mais presque tout le film a été fait avant la COVID. Il y a plusieurs façons. J'avais notamment... j'ai pris le pari d'écrire des affiches et de les mettre sur les poteaux du quartier en disant, je fais un film sur le quartier. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le quotidien, les intérieurs. Puis, j'avais trois grands axes. Là, je voulais... parler du travail, je voulais parler de tous les rituels qui entourent peut-être la mort ou les croyances. Au début, je m'intéressais vraiment à, tu sais, à comment la religion permet d'appréhender la mort. Mais après, ça s'est perdu dans d'autres affaires. Puis le quotidien. Donc, j'ai mis ces affiches-là et étonnamment, mon téléphone a beaucoup sonné. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont appelé pour que je vienne chez eux. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on tournait, le film s'écrivait. À un moment donné, je me suis dit, ah, j'ai assez de lieux de culte, on va aller vers les lieux de travail ou je sais pas quoi. Puis vers la fin du tournage, comme on vit dans le futur, je prenais mon téléphone, j'écrivais un message, allô, je fais un film, non. Puis quand je rencontrais les gens, je leur demandais quelle langue ils parlent. Puis là, je faisais Google Translate. Puis on s'est parlé en Punjabi et en ourdou et en grec avec le Google Translate de mon téléphone.
Ah oh ouais, c'est impressionnant ça quand même, tout ce que la petite machine-là peut faire. Ouh, c'est fou.
Puis sinon, souvent les enfants parlaient français, fait que les enfants, c'est mes traducteurs souvent. Il y a des moments où les gens, tu sais, on se parlait par signe, je montrais la caméra, puis je me rappelle d'un homme, un Sikh, qui a appelé son fils qui, lui, parlait anglais, puis là, on se passait le téléphone. Mais ça, c'est vraiment une des choses. Je savais là, qu'il y avait une barrière de la langue, mais je ne l'avais jamais perçue à ce point-là. Ouais.
Mais c'est une réalité aussi des enfants immigrants. Beaucoup, là, moi, j'en rappelle des amis au secondaire qui devaient tout traduire pour leurs parents. Arriver chez eux, tu ne peux pas parler à leurs parents. C'est quelque chose qui vivent dans leur quotidien. C'est impressionnant de voir que ça... Quand on travaille avec ça, là.
Ouais.
Ouais. J'ai remarqué, c'est ça. Donc, on passe dans beaucoup d'ateliers. C'est beaucoup de... Le travail, tu parlais du travail. Beaucoup, beaucoup d'artisans dans le quartier. C'est quelque chose que j'ai l'impression que je vois pas dans les autres quartiers à Montréal. Comment t'approches ça, le travail avec les gens? Est-ce que c'est toi qui fais un travail qui est plus conceptuel, qui est dans les idées, dans les images? Comment tu te relations avec ce travail-là manuel, c'est fait?
Je me pose énormément de questions sur le travail. C'est pas le sujet du film là, mais c'est quelque chose sur lequel je suis constamment en train de réfléchir. Je pense pas que c'est normal de travailler cinq jours par semaine. Je pense que même quatre jours par semaine, c'est pas normal. Je trouve, tu sais, je suis une grande fan de David Graeber qui a écrit le livre extraordinaire sur les bullshit jobs, qui dit que 40% des emplois sont pas nécessaires et que s'ils disparaissaient, ces emplois-là, soit on s'en rendrait pas compte, soit ça irait mieux. Alors que ce travail-là d'artisanat, tu sais, c'est du vrai travail utile. Faire réparer mes chaussures au lieu d'en acheter des nouvelles, c'est un geste écologique, c'est un geste fort, c'est un geste économique. Puis des cordonniers, il en reste plus à Montréal, sauf dans Parkex, de la même manière que faire ses vêtements, c'est pas possible, sauf dans mon quartier. Donc ça c'est comme une des richesses, puis une des choses que je trouve belles. Qu'il y a tous ces métiers-là qui sont en train de se perdre à peu près partout parce que le rouleau compresseur du capitalisme fonctionne de la même manière partout. Sauf que ça, je le vois comme une petite poche de résistance quand même.
Mmh. Ouais. Ouais, c'est très vrai. Excuse-moi. Mais c'est ça. Ton film joue demain à 15h dans les Rendez-vous Québec Cinéma. As-tu quelque chose à dire aux gens s'ils sont intéressés à aller voir des choses qu'on n'aurait pas pensé à aborder?
Je ne sais pas.
Une invitation quelconque?
C'est sûr que j'aimerais ça que des gens viennent. Là, un film le mardi après-midi à 3h, c'est pas idéal. Si les gens travaillaient moins, ils pourraient venir plus au cinéma. Mais je serai là avec David Cherniak qui a fait la caméra, puis on va pouvoir parler du film.
Bien sûr, je serais contente d'aller voir votre film demain dans les salles, même qu'on l'a vu sur Vimeo. Mais c'est pas du tout la même expérience de partager un visionnement avec plein de spectateurs qui viennent de différents milieux. Et peut-être vous, est-ce que vous serez là demain?
Oui, absolument, je vais être là. Puis je sais ce que j'allais dire, c'est que c'est probablement la dernière fois qu'il est diffusé en salle, parce que là, on commence à avoir fait le tour. Là.
Oui, avec le RIDM avant.
Oui, RIDM, on a eu une sortie au public à la Cinémathèque, à Cinéma sous les étoiles. On est à la Vox au CCA. Donc, je pense que c'est un peu demain ou
Et après
ou sur un laptop.
Là. Après ce projet-là, est-ce qu'on a des projets futurs qui s'en viennent?
Oui, absolument. Je suis en train de faire un film absolument différent sur le système électoral provincial et pourquoi la démocratie représentative n'est pas une solution au problème du 21e siècle.
Ouh.
Ça, c'est avec l'ONF?
Oui.
All right. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir.
Merci pour l'invitation.
On espère te voir demain au rendez-vous Québec Cinéma.
Merci.
Et on se laisse en musique avec Big Joanny Sainted.
Smells so sweet.
C'était Big Joanie Sainted. Antoine, tu voulais faire le point sur les rendez-vous Québec Cinéma?
Oui, c'est une grosse semaine pour le cinéma au Québec, à Montréal. Donc, toute la semaine, encore une fois, je vous le rappelle, le rendez-vous Québec Cinéma, une programmation riche en documentaires, en fiction, en programmes amateurs/étudiants. Et en parlant de documentaires, j'ai vu à la programmation qu'il y avait un documentaire que j'aime beaucoup qui va jouer mercredi prochain à 18h, c'est « Je vous salue salope » de Léa Clermont, qui est un film sur la cyberviolence faite aux femmes. À travers son film, on va suivre quatre femmes qui suivent quatre scénarios de cyberviolence différentes, entremêlées, pour nous sensibiliser à ce phénomène-là qui est essentiellement qui existe pour écraser ces femmes et enlever leur voix qu'elles ont sur l'Internet, qui est une plateforme qui donne voix à tous, et on refuse de les laisser parler, on refuse de les entendre. On va suivre une étudiante de l'UDM, une politicienne américaine, représentante américaine. On va suivre une politicienne italienne et une youtubeuse française. Donc, ils vivent des scénarios vastement différents dans leur forme d'intimidation qu'ils vont vivre en ligne et dans leur vie, mais qui se ramènent toujours à cette même chose, d'écraser la voix de ces femmes. C'est un documentaire que j'ai vu il y a un mois ou deux à l'UDM, à une projection. J'étais très, très content de le voir au Rendez-vous Québec Cinéma. Je vous conseille fortement.
OK, ben super. Le titre elle-même est vraiment séduisante.
Très poignant, oui, très fort comme titre.
Ouais. J'aimerais vous parler d'une artiste québécoise, parlant des femmes qui osent prendre la parole, qui osent avoir une présence dans les domaines qui sont moins occupés par les femmes, et les femmes DJ. Après une petite pause musicale, je vous parle de Jean Tellum, qui a fait son set. Vous allez me pardonner, je ne suis pas amateur de musique électronique, alors que j'ai bien apprécié son show. Donc, je vous parle du show de Jean Tellum à Dacha vendredi dernier. Et on se laisse avec Rouge Pompier, Batman, pauvre Batman.
Stop.
c'était Rouge Pompier. Alors maintenant, je vous parle d'une artiste québécoise qui s'appelle Jean Tellum. J'ai vu son show à Dacha ce vendredi dernier. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle, bien sûr, dans le contexte d'un club. C'est très bruyant. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un petit échange avec cet artiste qui fait de la musique depuis 2014. Belle ambiance. Je sais pas si tu connais le club Dacha, Antoine?
Oui, je suis pas le plus club dans la vie. Je dois avouer que je suis jamais allé.
OK. Mais t'as une connaissance de ce club-là et de son vibe.
Oui, j'ai déjà vu la file devant.
Ouais. Donc, cette soirée-là, il y avait pas vraiment une file parce que vendredi dernier, il faisait quand même moins 17 le soir. Très froid.
Ouais, puis... t'as pas envie d'aller avec ta petite tenue de soirée, te geler les fesses dehors à ce temps-là.
Ouais, mais les gens dansaient, donc...
Ça se réchauffe.
Oui, oui, exactement. Puis les gens dansaient sous les phares rouges et bleus et mauves et toutes sortes de couleurs. L'ambiance était très bonne. La musique mettait en quelque sorte en transe, mais vous n'aviez pas cette sensation d'être pris dans une boucle sans fin, comme c'est souvent le cas avec la musique house et techno moderne. J'étais sortie avec mes amis pour ma fête, en fait, puis dont certains sont de vrais amateurs de EDM. Qui vont au Nousse-Ligas et aux différents festivals, et d'autres non.
Comment ils ont trouvé ça, tes amis amateurs de EDM?
Ils ont trouvé ça ordinaire, je dirais. Et puis c'est pas une critique nécessairement négative, mais parfois si on connaît pas vraiment l'artiste, puis c'est un tout petit artiste local, il y a pas tout le monde qui trippe sur les artistes locaux comme nous à Choc.
Il manque l'engouement qu'on
ouais,
a d'un...
exactement.
Ah, c'est dommage.
C'est ça. Elle fait de la musique électronique depuis 2014. Quant à ses inspirations, elle dit qu'elle est biais de script house et techno en consacrant ses productions à des grooves destinés aux têtes qui hochent et aux corps qui se déhanchent. Ses productions s'inspirent de la rêverie et de l'énergie des événements de danse électronique imprégnés des rythmes, des mélodies, des mouvements et des émotions collectives de l'expérience live des clubs underground. Elle a créé son propre label en 2019, Bienvenue Recordings, sur lequel elle a publié The Inner Dance EP, qui constitue sa première sortie. L'année 2021 a débuté avec une toute nouvelle sortie sur Wolf Music, Mind Reader. Jean Tellum, qui possède toutes les caractéristiques d'une fouilleuse de son classique, fait toujours référence aux maisons du passé, riches en groove, dans sa musique, tout en gardant un œil attentif aux progrès et aux particularités du mélange des genres qui définit notre présent. Antoine, est-ce que tu avais des questions avant d'écouter la toune de 6 minutes de Jean Tellum?
Non, j'ai bien hâte de m'introduire à ça. Je dois dire que je suis pas le plus grand... J'écoute pas de DM dans la vie. Donc, j'ai beaucoup de curiosité.
Et c'est vrai qu'on joue pas tant que ça à Choc, mais c'est quand même une artiste montréalaise. Puis on aimerait, c'est ça, on aimerait la faire découvrir à nos auditeurs, auditrices. Donc, sur ce, on se laisse en musique sur Jean Tellum, Mind Readers. Thank you.
c'était quelque chose. J'ai eu un feeling de bulle, de comme bubbly avec les... Ça bouge comme ça. C'est très bien. Par contre, on s'en va dans une direction opposée au Dacha. Complètement, je suis allé voir...
Au monastère.
Oui, je suis allé au monastère voir le lancement de l'album de Vanille. Vanille qu'on aime beaucoup à Choc. On en a parlé beaucoup dans la dernière semaine. Elle vient de lancer... Elle vient de faire le lancement de son album qui est sorti plutôt en 2023. Et c'était au monastère. Le monastère qui est une salle... c'est une salle de spectacle au centre-ville dans une ancienne église anglicane du 19e siècle. Dans le coin, sur Sainte-Catherine, dans le coin de Guy Concordia. Et je dois avouer que c'était la salle parfaite pour son album. Son album qui a un peu un feeling médiéval, plus mélodique, moins rock que le premier. Et l'ambiance avec les vitraux, les plafonds hauts, l'écho de l'église donnait comme un... une grandeur à son spectacle qui marche très très bien. Si vous avez vu la pochette de son album qui est toute bleue, qui est très stylisée médiévale, les vitraux donnaient cette impression-là d'être dans la pochette. C'était très bien. Elle a fait tout un show. Son entrée en scène était impressionnante. Elle est arrivée vêtue de rouge, on aurait dit le petit chaperon rouge, avec un bouquet, une espèce de mariage entre un mariage et le chaperon rouge. Et elle a marché tout le long de l'allée.
Wow, elle a construit toute une mythologie.
Oui, c'est ça, elle s'est construite une mythologie. Je crois qu'elle a eu beaucoup de plaisir avec ce show-là. Elle était très, très drôle en live aussi, en spectacle. Autant que quand on l'a reçue en studio au Palmarès il y a quelques semaines. C'était tout un spectacle assis. Quelque chose qu'on sous-estime. Donc vraiment, quand j'ai dit qu'on allait dans une lignée différente, là, c'était pas le Dacha avec le monde qui dansait sur l'EDM. On était assis dans une église et on a écouté le band de Vanille, et Vanille surtout, qui est venu nous lancer son album. Vanille qui d'ailleurs va être au Royaume-Uni. J'avais juste annoncé ça, elle va être au Royaume-Uni. Au Focus Wales en mai. Donc, si jamais il y a des gens qui ont pas eu la chance d'aller la voir et qui sont au Royaume-Uni en mai, ça vaut peut-être la peine. Le Focus Wales, c'est un festival de musique émergente, showcase festival au Royaume-Uni. Donc, c'est ça. Ce que j'ai trouvé très intéressant, outre son spectacle, on a beaucoup parlé de Vanille, on la connaît bien maintenant. J'ai trouvé que la salle était très spéciale. L'endroit était vraiment particulier. Ça a été dur de rentrer. C'est comme... à première vue, c'est une église. C'est une église, le monastère. Et en fait, depuis quand même longtemps, c'est plus une église, c'est un OBNL de cirque. Donc, qui vont aider à promouvoir la culture et le cirque, donc les arts du cirque, et mettre leur propre spectacle. Sur scène de cirque. Donc, c'est pas tout le temps une salle de spectacle pour la musique. Donc, il va y avoir des acrobaties. Et j'imagine, je n'en ai jamais vu, mais j'imagine que les plafonds hauts se prêtent très bien à toutes ces choses, ces acrobaties qui viennent avec le cirque. Donc, c'était très intéressant et c'était une expérience que j'ai
inoubliable.
Inoubliable, oui, mais j'ai eu beaucoup de... J'ai eu de la misère à rentrer. Moi, j'ai pas trouvé la porte. C'était Montréal en lumière. C'était entouré de sculptures de lumière. C'était très mélangeant. Mais c'était très...
Moderne.
Ouais. C'était un mélange, on voyage dans le temps. Et quand t'es dans le monastère, tu oublies que t'es en centre-ville complètement. C'est comme complètement séparé de tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est ça, c'était dans une église. Puis c'est pas le genre de choses que... Quand tu vas voir un spectacle, tu t'attends nécessairement. J'étais agréablement surpris.
Oui, une belle ambiance, puis intéressante reconceptualisation de ce que pourrait être une église à Montréal.
Oui,
ce que pourrait servir une église. On a jasé un peu de ça pendant la saison d'automne dans les airs avec Léonie et Florence.
Mmh.
Quand on était une plus grande équipe. Parce que, oui, elles ont vu des spectacles dans les églises, comme le spectacle d'Étienne Chopé.
Oui, mais ça se fait de plus en plus, c'est ça. Les églises qui sont vacantes et qu'on doit réaménager, c'est des énormes bâtiments qui sont très, très beaux, beaucoup de culture, d'histoire dedans. On veut pas les détruire, mais personne ne les veut. Ça coûte vraiment cher à chauffer, ces affaires-là. Je sais pas si tu t'es déjà allé promener à l'extérieur de au Québec, dans les petits villages, ils commencent à en avoir aussi des églises qui sont à vendre. J'en vois beaucoup. Et ils sont à vendre pendant très, très longtemps, là, des dizaines d'années. Que tu fais le même chemin pour aller au chalet ou chez des amis, puis tu vas voir tout le temps dans la même église qu'il y a à vendre.
C'est sûr que c'est très intéressant comment les églises à Montréal deviennent des salles de spectacle, un peu comme des nouveaux lieux de culte pour
Oui,
des amateurs de
mais
musique, pour avoir une expérience spirituelle à travers la musique de Vanille. C'est comme une bonne ouverture à jouer une chanson de Vanille. Antoine, lequel t'as choisi?
oui. On va jouer. Mon petit chemin de vanille.
OK, alors on se laisse en musique. Restez avec nous. C'était Mon petit chemin par Vanille. Et merci à Antoine de nous faire découvrir une nouvelle chanson. Pas une nouvelle
Je ne savais pas
chanson.
qu'elle est nouvelle. On l'a beaucoup écouté,
Oui.
Vanille, à Choc dans les derniers temps, compréhensible avec son nouvel
C'est
album.
vrai, c'est
C'est tout
devenu comme la
nouveau.
star
C'est
de
notre
Choc.
star, oui, tout à fait. Donc, on a toujours du plaisir à l'écouter. Mais
Oui,
on
bien
va aller
sûr.
écouter d'autres choses, je pense, là. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous?
Oui, donc pour rester dans le cadre de notre thème musical, nous terminerons par une rediffusion d'une interview de Lina Basta et Marie Sénécal. Ça s'appelle « Quand scène punk et féministe s'accordent pour la fin du Boys Club ». Et ce serait la fin de notre émission aujourd'hui à Dans les airs. Merci d'Antoine d'être au studio avec moi.
C'est toujours un plaisir et j'espère pouvoir revenir vous parler la semaine prochaine du reste des rendez-vous Québec Cinéma parce que j'ai beaucoup de choses que je m'en vais voir là, dans les prochains jours. J'en Je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter.
OK, on se laisse avec l'entrevue de Lina Basta et Marie Sénécal sur la scène punk féministe. Bonne semaine!
Qu'en est-il de la place des femmes et des personnes issues des minorités sexuelles et de genre sur la scène alternative punk à Montréal? Pour répondre à cette question, Lina Basta et Marie Sénécal se sont entretenues avec Les Insoumises, un collectif féministe punk qui lutte pour la représentation des femmes, des personnes issues des communautés LGBTQ+, et des personnes de couleur sur la scène locale. Pour commencer, si vous voulez bien vous présenter, nom, prénom, pronom.
Bonjour, moi c'est Marie, c'est elle.
Ariane, elle aussi.
Super. Donc, notre première question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre collectif, de votre travail et de vos objectifs?
Dans le fond, le collectif Les Insoumises, on est un collectif punk, féministe, intersectionnel, antifasciste, pro-sex-word et pro-choix. Dans le fond, on fait la promotion des bennes issues des diversités culturelles, diversités sexuelles, LGBTQ, les personnes de couleur aussi, qui sont dans la scène underground. En fait, on est vraiment un peu avec le flow, là. Fait qu'à la base, c'était vraiment plus de faire découvrir des artistes. On essaie de présenter sur notre plateforme Instagram puis Facebook, de présenter le plus de groupes possibles qui viennent autant d'ici que de l'international. Après ça, ce soir, c'est notre premier show qu'on organise dans l'optique d'instaurer un code d'éthique, dans le fond, qui vient un peu avec la charge mentale que si vous vous associez aux Insoumises, ça vient avec une charge mentale au niveau du groupe aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'aucune dénonciation, personne, malheureusement. Donc, c'est ça un peu d'instaurer un climat qui est beaucoup plus aidant, qui est plus safe. Qui est plus inclusif aussi.
Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet d'amener une espèce de forme de réseautage dans le milieu punk féministe. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on a énormément besoin, parce que même si le punk reste, selon moi, le médium le plus, aujourd'hui, le plus inclusif là, pour passer des messages en tant que musique, ça reste quand même très, très, très masculin. On fait face, en tant que membre d'un band, moi, je fais face à beaucoup de sexisme. Le fait de savoir que j'ai toujours sous la main le numéro de téléphone de la gang des Insoumises et de pouvoir compter sur elle pour ça change tout, en fait. Ça change tout parce qu'on a l'impression d'être nombreuses.
Je pense qu'il y a vraiment un de nos slogans, c'est « Fuck your boys club ». Je pense que ça dit vraiment tout ce que ça a à dire. Je pense que les personnes assignées hommes à la naissance vont souvent se faire comme porter plus naturellement vers le milieu de la musique, puis on va leur dire « Ah, ben oui, t'es bon, tout ça. » Fait que je pense qu'il y a comme une pression aussi ou d'avoir comme d'être bonne, tu sais, de tout de suite savoir, on n'a pas, comme si on avait un peu moins le droit à l'erreur, puis on avait moins le droit, nos erreurs vont être plus soulignées. Puis c'est ça, je pense que, tu sais, si on réussit à, justement, on est plus fort, plus fort, tout le monde ensemble. Fait que si on peut réussir à réseauter tout ce monde-là, ben peut-être qu'on va finir par crash le patriarcat.
C'est aussi le fait que on se pose la question à savoir comment je m'habille, tu sais, parce que le male gaze, on en parlait tout à l'heure, c'est tout le temps présent, tu sais. Fait que comment je m'habille, si tu correct, si je mets ça, est-ce que c'est too much, est-ce que ça fit avec les tonnes, est-ce que, tu sais, c'est des questions que moi, mon guitariste se pose pas là. Il m'a demandé, tu préfères que je mette tel chandail ou tel chandail? J'ai dit franchement, je m'en fous. Mais moi, j'ai réfléchi. Parce que je veux projeter une image, en fait, de confiance en soi. Et ça, je pense que ça appartient pas... Enfin, c'est pas tout le monde qui vit ça dans le milieu punk.
Et c'est né comment, Les Insoumises, et quand?
C'est né en un petit peu avant la pandémie, donc 2019. C'est Emma, qui n'est pas encore là, qui prend des photos, qui a parti ça un peu parce que, justement, elle avait participé plus jeune à des bands. Il ressentait énormément le boys club. Je pense que dans des temps où la diversité, la fluidité de genre était pas aussi connue, disons. Puis je pense que dans le fond, il a parti ça. Il y avait déjà d'autres faisait déjà de la photographie. Fait que dans le fond, on a comme il a parti le collectif. Puis de fil en aiguille, on a grandi un peu. Puis de faire de plus en plus de grands projets. De se faire connaître. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à... Tu sais, en fond, il n'y a pas de Il y a aucune porte de fermée. On est toujours prêt à réagir à l'actualité. On est toujours prêt à écouter les gens, prendre leur témoignage ou juste leur idée. Puis vraiment, le collectif est ouvert à tous.
Nous nous sommes également entretenus avec Jennifer Bobette, musicienne et bookeuse de concerts au Trackside, qui nous parle de la survie de la scène punk locale et de la représentation des femmes et des personnes queer.
Moi, je m'appelle Bobette. Puis, en gros, je joue de l'accordéon dans un band de folk punk syndicaliste qui s'appelle Union Talks. Je book des shows pour Bobette Productions, puis pour le Trackside. Puis, je suis un peu comme gérante du Trackside, qui est une salle de show DIY underground dans le sud-ouest de Montréal.
Pour commencer, j'ai une question par rapport aux valeurs fondamentales antiracistes, antisexistes, anti-institutions de la scène punk, qui... Parfois, malheureusement, au cours de son histoire, a été un peu hostile envers les femmes puis les personnes issues des communautés LGBT. Il y a un manque de visibilité, un manque de représentation, même si les femmes sont très impliquées sur la scène. Est-ce que à Montréal, est-ce que cette réalité-là s'est manifestée? Est-ce que tu as pu voir du changement au cours des dernières années?
Ben moi, en gros, ça fait 12 ans quand même que j'organise des concerts. Fait que quand j'ai commencé le booking, quand j'ai commencé à organiser des concerts, c'était au Café K.O. en 2010, puis j'organisais quand même des concerts à toutes les semaines, pendant 4 ans. Puis, je vais t'avouer que c'était 9/10 du temps, des groupes d'hommes blancs, carrément. En 4 ans, il n'y a jamais aucun band genre de trans, de queer qui m'a approché parce que je pense que c'était ça n'existait pas beaucoup ou la scène l'acceptait pas ou ça je sais pas trop vu que c'était le début de mon booking. Mais genre quand j'ai commencé à runner le Trackside, c'était en 2017. Puis j'ai vu depuis 2017 qu'il y a de plus en plus de femmes qui se partent des groupes de musique, puis de plus en plus de trans. Puis je trouve aussi qu'il y a une acceptation de la scène. Je trouve qu'il y a une ouverture de la scène underground par rapport à ces personnes-là, que ce soit queer, trans, femmes, BIPOC, name it. Fait que je trouve que de plus en plus la scène de Montréal est rendue une scène très inclusive. Puis je pense qu'il y a tout le temps du travail à faire, hein. Une scène n'est pas 100% clean, là. C'est impossible, mais je pense que la scène fait le travail qu'elle a à faire pour être le plus inclusif possible. Ça je vois une différence d'année en année. Ça va juste en s'améliorant, selon moi. Ça va pas en régressant, là.
Puis aussi, j'aimerais avoir un peu le contexte du Trackside. Est-ce que tu peux nous faire comme sa brève histoire? Comment tu es devenue à être gérante?
Trackside m'est un peu tombé dans les mains. C'était un homme, un agresseur sexuel qui gérait ça avant. Cet homme-là s'est fait call out. Il y a eu beaucoup de dénonciations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Puis, il s'est fait jeter en dehors de la scène, là. Il a comme carrément crissé son camp. Puis, me ramasser avec cette place-là. Mais je me la suis beaucoup apprivoisée. J'ai fait comme beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup féminiser la place parce qu'il y avait eu quand même un gros call au boycott de cette place-là à cause des dénonciations, ce que je comprends et que je supporte à 100%. Mais c'était beaucoup géré par des dudes. Fait que moi, j'ai essayé de revirer ça de bord en demandant juste à des femmes de runner la place, puis tout. Puis là, en ce moment, au Trackside, il y a plus d'hommes que de femmes. Je peux pas parler pour tout le staff, mais je pense, moi, dans mon idéal, j'aimerais que ça soit une parité égale, moitié homme, moitié femme, ou juste renée par des femmes trans, queer.
Puis, par rapport aux stratégies qui ont été mises en place pour justement comme se réapproprier cet espace-là, puis que ce soit un safe space un peu aussi pour les femmes puis les personnes issues des minorités de genre, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces stratégies-là?
Côté stratégie, c'est comme je dis, il y a comme eu à la suite des dénonciations, il y a eu un boycott qui a duré quand même un an et demi. Comme stratégie, ben ça a été aussi de repeindre, de changer de nom, de féminiser la place, comme que je disais, d'amener des femmes dans la place, d'enlever toutes les peintures parce que c'était des peintures, dans cette place-là, c'était des peintures beaucoup misogynes. Sexiste, que aucune femme se sentait à l'aise de rentrer dans cette place-là. Tu voyais les peintures, c'était des hommes zombies qui tenaient par les cheveux des têtes de femmes décapitées qui suçaient le pénis. Fait que tu sais, comme ça, c'était les peintures qu'il y avait dans cette place-là. Fait que c'était pas invitant. C'était vraiment pas... On s'entend que c'est pas invitant pour les femmes, là. Fait que moi, j'ai la première affaire que j'ai faite, c'est... On enlève toutes les peintures. Tu sais, c'est comme essayer de faire beaucoup de PR. Beaucoup, beaucoup de PR. Dire comme, ça l'a changé, c'est des femmes qui runnent ça maintenant. Venez voir par vous-même, qu'est-ce qui se passe. Mais essayez de vous mettre à l'aise. Venez nous parler, surtout. S'il y a une situation, que ça soit sexiste, raciste, misogynie, transphobie, tout, venez. Venez nous parler à nous pour qu'on puisse gérer la situation sur le tas, pas par après. Fait que maintenant, quand il y a des situations de ce genre-là, on gère ça on the spot. Puis ça fait que les femmes se sentent... les femmes, les personnes qui s'identifient à femmes se sentent plus à l'aise. Puis aussi de voir sur stage des bennes, beaucoup avec des femmes, avec des trans, avec des queers, ça fait qu'il y a un sentiment plus d'appartenance puis de confort puis de sécurité qui s'installe, toute seule, en fait. Fait que je pense, oui, je pense que les femmes au Trackside ont fait un effort de notre côté, mais je pense que la scène en général fait un effort pour rendre le Trackside un safe space en venant jouer, en encourageant la place.
Super. Puis, j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la difficulté aux espaces alternatifs de subsister? Il y a eu, par exemple, la fermeture des catacombes en 2019. Puis, en plus, le Trackside est à Saint-Henri, un quartier qui se gentrifie férocement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés auxquelles vous faites face?
On survit bien, franchement. Pour de vrai, on survit bien. Je me suis toujours dit depuis 2 ans, c'est comme si j'ai réussi à faire survivre le Trackside pendant la pandémie, je suis prête. Je pense que je viens de passer le pire parce que moi, ça a été comme le plus gros coup dur, là, comme faire survivre le Trackside pendant la pandémie. Parce que j'avais pas le droit, le Trackside n'avait pas le droit aux revenus du gouvernement, là, tu sais, qui donne, tu sais, comme, on a eu rien, là, on a eu aucune aide gouvernementale, puis il n'y avait aucune rentrée d'argent qui pouvait rentrer au Trackside, fait que on a survécu, mais ça a été comme vraiment dur. J'ai mis beaucoup de mon argent personnel, en fait. Ouais. Puis tu sais, organiser des GoFundMe, compilation bénéfices, faire des t-shirts, mais à final, c'est comme beaucoup de mon investissement personnel qui est passé dans la survie du Trackside. Puis c'est bien correct avec ça. Il y a un gros manque de salles, de show en ce moment. Genre, c'est drastique le nombre de salles de show qui manquent depuis la pandémie parce que c'est pas juste les catacombes. Il y a eu l'escalier aussi qui a fermé. Tu sais, il y a beaucoup de... le B-Wards qui a fermé. Fait que là, tu sais, oui, là, il reste comme... il y a le Trackside, il y a le Turbo House, il y a l'Hémisphère Gauche, la Sala Rosa qui reste, mais pour les besoins de la scène, c'est pas assez. Puis moi, je le vois beaucoup depuis que les shows ont reparti. Là, en ce moment, la salle de show est bookée jusqu'en juillet. Puis j'ai pas besoin de courir après les bands puis les bookers, là. C'est même les bookers qui s'arrachent les dates. Oui, parce qu'il y a un manque de salles de concert, mais de ce que je comprends aussi dans les messages que je reçois, c'est le Trackside offre un peu une expérience unique que tu ne trouves pas dans aucune autre salle de show à Montréal. Fait qu'il y a aussi, je pense, cet aspect-là qui joue beaucoup sur pourquoi qu'on est rendu en surbooking, là. Fait que, tu sais, puis on fait du mieux, on fait vraiment du mieux qu'on peut, en fait. Puis ça, c'est ça, ça va bien. Let's go.